7 mai, ici Guy Simard. Voici les nouvelles. Au Vatican, de la fumée blanche s'est échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine aujourd'hui, signalant l'élection d'un nouveau pape à la tête de l'Église catholique. Léon XIV, âgé de 69 ans, est apparu sur le balcon de la basilique Saint-Pierre à 19h23, heure locale. C'est le cardinal Robert Francis Prévost, un natif de Chicago, qui a été missionnaire pendant une vingtaine d'années au Pérou. Dans sa première allocution dans ses nouvelles fonctions, celui qui a été fait cardinal il y a quelques années à peine a souhaité une église qui construit des ponts et qui entretient le dialogue.
Una chiesa che costruisce i ponti, il dialogo.
Sur place, le journaliste Bernard Bedarida a affirmé que ce choix était une surprise.
C'est une personnalité que nous connaissons assez peu, à vrai dire, une personnalité qui est inconnue du grand public, qui ne fait pas partie des cardinaux qui étaient pressentis pour devenir pape. Il faudra voir effectivement quelle sera son approche de l'Église catholique, son approche des problèmes que revêt actuellement la chrétienté. Il faudra voir. C'est une grande surprise.
Le journaliste spécialisé en questions religieuses, Alain Crevier, s'est dit en état de choc de l'élection d'un Américain dont il espère qu'il soit fort différent de plusieurs de ses collègues cardinaux aux États-Unis.
Ce qu'il y a dans le bassin des cardinaux américains, ils sont une dizaine, il y a là-dedans des ultra-orthodoxes, des ultra-traditionnalistes, et ils font peur. Ils ont mis des bâtons dans les roues de ce pape François tout le long de son pontificat, mais vraiment, ils l'ont traité d'hérétique de tout ce qu'on peut imaginer. Mais ce n'est pas l'ensemble, évidemment, des cardinaux américains.
Et ce n'est pas parce que ce nouveau pape est américain qu'il endossera nécessairement les actions du président Donald Trump, du moins selon la professeure en études religieuses de l'UQAM, Catherine Foisy, qui place Léon XIV dans la lignée des papes, disons, progressistes. Elle pense que le discours de Léon XIV sera discordant de celui du président américain.
Il ne sera pas de nature à conforter l'administration Trump. Il a des positions plutôt progressistes sur les questions sociales, les questions qui concernent l'environnement, qui concernent les migrants.
Elle rappelle par ailleurs que le nouveau pape possède une formation en droit canonique, ce qui fait de lui un homme fort méthodique qui devrait s'attaquer aux enjeux financiers du Vatican, une étape à la fois. Québec change le mode de rémunération des médecins en introduisant des objectifs de prise en charge des patients. Une partie de leur salaire serait établie en fonction du nombre de patients pris en charge, une approche qui semble déplaire au plus haut point aux médecins spécialistes.
Il y a actuellement 1,5 million de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille et l'accès à un spécialiste n'est guère mieux, indique le ministre Christian Dubé.
En ce moment, il y a plus de 900 000 consultations qui sont en attente.
Pour inciter les médecins à prendre plus de patients en charge, Québec veut modifier leur rémunération en introduisant la capitation.
La capitation est reliée avec une prise en charge qui est mesurée.
Ils seront aussi payés à l'acte et à l'heure. De cette façon, le ministre croit que tous les Québécois seront affiliés à un GMF dès 2026.
Il faut en fait que chaque Québécois, donc 100% des Québécois, soient pris en charge.
Mais cette petite révolution en santé passe mal auprès du président de la Fédération des médecins spécialistes, le Dr Vincent Oliva.
On dirait qu'ils font exprès pour écœurer les médecins.
Selon lui, Québec manque sa cible.
Les médecins sont au rendez-vous, veulent travailler, puis on n'a pas les ressources pour le faire.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles, Québec.
Et le président de la Fédération des omnipraticiens dénonce ce qu'il prétend être une mauvaise solution à un mauvais diagnostic, le docteur Marc-André Amiot.
J'ai 22% des médecins de famille qui ont plus de 60 ans. Si vous les écœurez, ces médecins de famille-là, c'est quoi le risque qui va arriver? Moi je vais vous le dire, c'est quoi le risque? Il risque de quitter, ça risque non seulement pas d'améliorer, ça risque de détériorer la situation.
Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
Météo.
6, généralement nuageux ce soir, cette nuit à Montréal. 9 demain, des averses. 18 samedi, pluie intermittente et plein soleil dimanche 18. Les prévisions ont baissé un peu pour lundi. 23 plutôt que 28, alternant soleil-nuage, mais ensuite 28 pour mardi et mercredi. Tendance qui est la même à peu près partout. Gatineau 4 et 12, couvert demain. Sherbrooke 6 et 15, des averses. Québec 4 et 8, de la pluie prévue.
Cogeco Nouvelle. Qui fait jaser dans le Bas-Saint-Laurent. FM 93, Rimouski. Le sport, les nouvelles d'ici, les enjeux de l'heure, les sujets polarisants. Si ça fait partie de l'actualité, FM 93, Rimouski.
On fait le point sur l'actualité. Jusqu'à 18h30, vous écoutez Le Québec maintenant. Au réseau Cogeco Média. Voici Philippe Quentin.
Il Il est 18h05, c'est nuageux, c'est frais également. Il fait à peine 10 degrés actuellement. Et ce soir et cette nuit, ben ça va glisser jusqu'à 6 degrés. Demain, vendredi, ben un maximum de 9. Donc, les températures demeurent fraîches. Week-end, coussi, coussa. Hein? Samedi, un petit peu plus chaud que prévu. On va atteindre 18 degrés, mais il y aura de la pluie. Il faut attendre dimanche pour retrouver le soleil, un maximum de 18 degrés. Par contre, à compter de lundi, ben là, ce sera vraiment des températures très chaude. On prévoit même des journées avec un mercure, tenez-vous bien, de 30 degrés la semaine prochaine. Dans quelques minutes, je vais m'entretenir avec Mario Langlois. Mario et moi, on va discuter des matchs éliminatoires de la Coupe Stanley. Ce soir, les Hurricanes qui visitent les Capitals à Washington. Les Hurricanes qui ont gagné le premier match à l'étranger contre les Capitals. Et une équipe canadienne, les Oilers d'Edmonton, qui ont surpris les Golden Knights à Vegas dans le premier match. Eh bien, c'est le deuxième rendez-vous de cette série. Donc, beaucoup d'action. Il y a également la victoire qui va disputer son premier match éliminatoire contre Ottawa ce soir à la Place Belle.
Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prévost.
Alors, c'était à 13h15 aujourd'hui, heure de l'Est. On annonçait l'élection du nouveau pape. C'est un Américain, il s'appelle Francis Robert Prévost. Il est âgé de 69 ans et il prend le nom de Léon XIV. C'est le premier pape nord-américain de l'histoire. Pour en discuter, eh ben, je reçois avec plaisir une religieuse très, très populaire que tout le monde aime. Bien sûr, vous avez reconnu Sœur Angèle. Sœur Angèle, bonjour.
Bonjour. Comment allez-vous, mon beau Philippe?
Ben, ça va vraiment très bien, puis encore mieux quand vous m'appelez mon beau Philippe.
Ben oui, mais non, mais imaginez-vous, là. Non, mais c'est la journée très émouvante aujourd'hui, là.
Oui. Comment vous l'avez vécu? Racontez-nous ça. Étiez-vous devant la télévision? Avez-vous regardé l'annonce?
Ben, c'est bien sûr. J'étais tôt, je regardais. J'ai dit, oh mon Dieu. Mais je me dis peut-être avec le quatrième, c'est le troisième jour. Alors, j'ai dit, oh, on est en danger, là. Là, pour moi, là, ils vont certainement élire notre pape. Et là, je me disais, oh mon Dieu, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Pensez-y deux minutes. Parce que l'Église, c'est chacun de nous, tous, même qu'on pratique pas, c'est nous autres, l'Église. Et là, j'ai dit, on va avoir quelqu'un qui nous représente dans le monde. C'est émouvant. C'est lui qui a assez de courage et de volonté d'accepter le poste. Parce que c'est pas facile, vous savez. C'est un poste de cette envergure-là. C'est pas rien, là. Avec les situations de l'Église actuelle, il faut être courageux. J'ai médité beaucoup aujourd'hui là-dedans. Vraiment, là. Tu sais, c'est facile à dire, mais il faut remplir la fonction. Et moi, je me disais, mon Dieu, il faut être fort. Mais ils ont pris un homme de sagesse, un homme qui réfléchit, un homme qui prend le temps de nous dire les choses. Et puis je pense que c'est un homme qui écoute.
Mmh. Est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que vous en aviez entendu parler auparavant, Sœur Angèle?
Non, j'en avais rencontré quand j'étais à Rome dernièrement pour le décès de le pape François, et puis j'ai pas attaché là, non. Et c'est pas ceux qui disaient qu'ils étaient papotés, là, mais ceux qui étaient papotés sont tous sortis cardinaux.
Oui, voilà, hein, c'est le vieux dicton, mais que Guérian parlait plutôt, celui qui rendra pape au conclave en ressort cardinal. Et il y a des favoris, justement, qui sont ressortis cardinaux.
Mais c'est ça qui est arrivé. Puis là, moi, je me dis, mon Dieu, mais c'est quelque chose. Puis un homme, quand même, tu sais, c'est dans une famille qui, quand même, il va comprendre les immigrants. Parce que sa famille, c'est une immigrante, pareil. Voyez-vous, sa mère, c'est une Italienne. Elle n'est pas venue au monde aux États-Unis. Ouais. Son père, c'est Long Prévost, ça doit être un Français.
Oui, c'est un Français.
Bon, alors lui aussi a immigré. Ça veut dire que ça va être des gens de cœur, des gens qui vont s'insérer. Et ce pape, il va falloir qu'un Américain qui va s'insérer dans le monde entier de l'Église, qui avait besoin d'un pasteur, un pasteur fort, et aujourd'hui, sûr plus que jamais.
Et vous avez raison de mentionner, Sœur Angèle, à quel point c'est un défi important, peu importe notre relation avec l'Église catholique, avec la papauté. Il faut reconnaître que c'est un travail extraordinaire qui attend cet homme-là, qui se retrouve là au centre de l'univers.
Ah, moi, là, mes idoles, tout l'univers a ses yeux sur lui, qui, chaque petit geste, chaque petit doigt qu'il lève, il est jugé. C'est épouvantable. Aujourd'hui, avec les techniques, avec tous les téléphones intelligents, là, le monde entier, autrefois, moi, on avait l'élection du pape, on savait même pas. On disait ça comme ça, ça passait à peine. Il n'y avait même pas trop de télévision, rien. Mais là, aujourd'hui, écoutez, c'est vraiment... Quand on y pense, là, il faut être fort. Mmh. Et moi, j'y souhaite beaucoup de force.
Mmh. Ben, c'est l'image qu'il a dégagée là, sur le balcon de la Basilique Saint-Pierre. Bon, d'abord, il est relativement jeune, 69 ans. Pour un pape, c'est jeune. Et le contraste avec son prédécesseur...
Un peu plus longtemps, ouais. C'est bien... C'est parfait, ça. Mmh. Puis vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Ben moi, je l'ai trouvé d'abord extrêmement vigoureux. Et c'est ça, je trouve que le pape François, évidemment, à la fin de sa vie, on voyait que c'était un homme qui avait donné, qui avait beaucoup donné. Il avait plus la même énergie. Et là, arrive Francis Robert Prévost, qui s'exprime très bien. Comme François parle plusieurs langues également. Il donnait une impression de force, ça, c'est clair. Mais encore une fois, et vous le mentionnez, Sœur Angèle, il y a tellement de défis qui l'attendent. Et un des défis, et je pense, puis juste peut-être avoir votre point de vue là-dessus, toute la question de l'inclusion dans l'Église catholique. On sait qu'il y a beaucoup de groupes qui se sentent exclus. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des progrès à ce niveau-là?
Oui, il a l'air ouvert, parce que c'est un missionnaire. Vous savez, un missionnaire, il a le cœur présent à l'autre. Puis c'est ça. Vous savez, la mission. Moi, j'ai compris la mission dans le temps encore de Jean 23. C'était un homme comme ça. Puis François, qui nous a quittés, hey, c'est-tu quelque chose qu'on peut comprendre? La journée de Pâques qui apparaît à la place publique, la place Saint-Pierre, qui bénit tout son monde. Après ça, il s'en va au balcon, puis il bénit le monde, puis 2 heures après, il nous quitte. Où est-ce qu'il a trouvé la force, ce gars-là?
En effet.
Des gars, c'est un homme.
Oui, et il a décidé qu'il faisait ses adieux, clairement. Oui, et il voulait les faire de belle façon. Alors, ça sera tout un défi pour le nouveau pape. Dites-moi, Sœur Angèle, je vous pose une question tellement difficile à répondre, mais donnez-moi juste votre point de vue là-dessus. On vit une période difficile dans le monde, il y en a eu d'autres, hein, bien sûr, on le sait bien. Par exemple, aujourd'hui, on souligne le 80e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les années 39-45 ont été absolument terribles. Mais quand vous regardez le monde aujourd'hui, est-ce que vous êtes optimiste, Sœur Angèle?
Ben, il y a beaucoup d'optimistes qu'il y a dans ça. Par contre, avec les exigences du monde, on devient plus exigeant. Plus on a des avantages, plus on a des instruments faciles, plus on a des... Vous savez, les gens, ils communiquent moins avec... vous allez dire, pas correct, avec des téléphones intelligents, les gens... Moi, je circule beaucoup, et les gens regardent même pas la nature, ils regardent rien, ils regardent le téléphone.
C'est vrai.
Mais là, je me dis, on est concentré face à quoi? Face à quoi on est concentré? Est-ce que c'est besoin de tout le temps? Moi, j'en ai pas comme ça, pas du tout. Pas non. Du tout. Et je tourne mes appels, puis je fais mes affaires, puis c'est ça. Et alors, dans le temps, c'est vraiment, mais je vais vous dire, l'Église était souffrante tellement que je me dis, comment on va pouvoir ramasser toutes les pots cassés?
Ouais, c'est en effet, c'est un lourd défi. Puis là, on n'embarquera même pas dans les finances du Vatican.
Non, rien. On va lui dire vraiment, l'Esprit Saint savait ce qu'on avait besoin. On avait besoin d'un homme fort. On avait besoin d'un homme quelqu'un qui est capable de durer puis de faire. On va lui donner la chance. Moi, j'ai dit toujours. Il faut leur donner une chance à s'adapter, à s'habituer à un esprit vatican, parce qu'il faut